Eh bien, bon après-midi. Et on commence avec Vampire d'hier et d'aujourd'hui. C'est un vaste programme. Avec Nadia Coste, qui vient de sortir chez Scrineo le premier, un bouquin avec un immortel qui a peur des rayons du soleil. Voilà. Jeanne Fèvre d'Arcier, alors spécialiste des vampires femelles. Et mâle aussi, mais beaucoup de femmes chez vous. Cassandra O'Donnell, avec sa sorcière Rebecca Keane. Alice Carling et sa série Lacrimosa, Diesire et Agnus Dei. Et Kim Newman, un des grands spécialistes du vampirisme, du cinéma consacré aux vampires, des freaks d'Hollywood et donc de Dracula. Alors, les vampires d'hier, c'est plutôt Carmilla, Dracula, ses princes et ses princesses de la nuit avides de sang et réfractaires à la lumière du jour, des vieux vampires. Aujourd'hui, c'est plutôt Buffy et contre les vampires, True Blood, Twilight, des plus jeunes vampires. Je me tourne vers Kim. Qu'est-ce qui a rajeuni nos vampires d'hier à aujourd'hui?
I always think that the reason vampires are the most popular monsters isn't because they have like one aspect you can latch on to and tell the stories about. It's that they have many. They are multivalent. They have many, many meanings. There, you can do vampire, you know, light comedies, and you can do vampire gruesome tragedy, and the entire spectrum in between sort of works with it. But
moi, j'ai toujours pensé que si les vampires sont aussi populaires de nos jours, ont toujours été populaires, ce sont des monstres parce que ce sont des monstres extraordinairement attachants, parce que avec les vampires, ils sont extrêmement multivalents. Et donc, les vampires, on peut les traiter à la sauce comédie, mais également à la sauce dramatique et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, les vampires sont vraiment des êtres multivalents.
And the other thing is all the classic monster archetypes, the mummy, the zombie, werewolves, the Frankenstein monster. The vampire is the one that you can most easily sit down and talk to. You can have a conversation with. It's no coincidence that Anne Rice wrote a book called Interview with a Vampire. You couldn't have Interview with a Werewolf because it would be a lot of growling and a lot of eating and a lot of dying and a very short book. But a vampire can tell you sometimes at length what they're feeling, what they're interested in, what's going on in their lives. And that's sort of the stuff of fiction.
Moi, j'ai toujours pensé que, en fait, si, bien sûr, il y a le vampire dans les classiques, c'est un archétype, mais il y a des zombies, il y a Frankenstein, il y a tous ces monstres aussi qu'on a vus. Mais je pense que le vampire, c'est celui avec lequel il est le plus facile d'échanger. Donc, c'est pas un secret qu'il y a eu ces entretiens avec un vampire de Anne Rice, vous connaissez sans doute. Cela explique qu'il est possible en fait de parler avec un vampire. On peut échanger avec un vampire comme on ne peut pas échanger avec un loup-garou, parce que si on essayait d'échanger avec un loup-garou, on entendrait plein de grognements et ils s'entretueraient entre eux, ils se dévoreraient entre eux, et ça ne serait pas du tout la même chose. Donc pour moi, le vampire en littérature populaire, il permet les échanges.
And as for the relevance, the vampire subgenre or genre particularly has for today, it strikes me that we're living in times of extreme social difference and predation and one group of people or individual people literally sucking off the lives of the masses, and that naturally has a particular resonance that I think throbs through much recent vampire fiction.
Et je pense qu'on vit dans une période où la vie est très compliquée pour beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, on vit dans une période où les riches exploitent les pauvres. Et donc, je pense que les vampires qui, bien sûr, profitent aussi des autres, il y a une résonance entre les deux, entre la période et les activités des vampires.
And I'm done.
Merci. Jeanne, mais justement, pourquoi vous utilisez des vampires dans vos livres?
Alors, en fait, le thème du vampire, il est extrêmement polysémique. Il est très ancien. C'est-à-dire qu'on trouve, par exemple, des traces de personnages qui ressemblent à des vampires dans l'Odyssée. À un moment, Ulysse traverse les mers, il est perdu, et il atterrit sur une île, et il convoque les esprits des morts en faisant le sacrifice d'un mouton. Et dans les vapeurs de sang viennent les esprits des morts. Donc, en fait, on trouve ça... C'est très ancien, ce mythe. Il est multiculturel. On trouve des vampires dans la religion, dans les mythes hindous. Il y a des petits personnages qui s'appellent les Vétalas, qui ne mangent pas du sang, mais ils grignotent l'âme des méchants. Voilà, donc en fait, on peut trouver ces personnages-là un peu partout. Et puis, je pense surtout que la grande fascination des humains pour les vampires, c'est qu'ils rêvent tous d'être immortels. Et que le mythe de l'immortalité, c'est un... Enfin, depuis l'origine de la vie, les gens voulaient être immortels. Donc c'est pour ça que ce personnage fascine.
Nadia, c'est pour ça aussi que vous avez utilisé dans votre livre un immortel ?
Alors, moi, c'est pas forcément pour l'immortalité. Moi, je pense que la fascination pour les vampires, c'est très juste ce que tu dis, Jeanne. Il y a aussi, à mon avis, le côté pervers narcissique du vampire qui aspire l'énergie, en tout cas par le sang, mais voilà, et il y a cette universalité là qui revient sur toutes les époques confondues, tous les lieux confondus, partout dans le monde, il y aura toujours quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un d'autre, qui va lui bouffer de l'énergie, qui va être néfaste dans sa vie et qui va être finalement le vrai vampire du quotidien qu'on va croiser. Des pervers narcissiques, il y en a. Et à mon avis, la première personne qui a écrit sur les vampires, enfin peut-être pas dans l'Odyssée, mais plus tard, avait peut-être rencontré une personne comme ça et avait besoin de s'en détacher ou en tout cas d'en faire un mythe, un personnage en allant au-delà simplement d'une personne mauvaise qui vous prend votre énergie et en créant quelque chose qui vraiment va drainer le sang pour permettre à la personne de vivre au travers ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui. Alors, dans la littérature du 19e et dans les films qui ont suivi dans les années 20, 30... et même 40, jusqu'à Polanski, on tue les vampires en leur enfonçant un crucifix ou en tout cas un poinçon dans le cœur. Comment font vos tueuses de vampires, les mesdames Cassandra et Alice ?
En ce qui me concerne, c'est pas... Enfin, elles tuent les vampires, mais c'est accessoire. Hein. Elles tuent les démons.
Elles tuent
tout le monde. De toute façon, ce sont des sociopathes. L'héroïne Rebecca Kinn, de toute façon, à la base, c'est une sorcière de guerre, une sociopathe qui tue de toute façon tout ce qu'elle estime être un ennemi. Donc, et les innocents, d'ailleurs, comme c'est pas faire le bien, la différence entre le bien et le mal, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Pour le coup, en ce qui concernait le vampire, non, ce qui m'intéressait d'incorporer dans les clans, dans les divers clans, puisqu'il y a plusieurs clans, des potionneuses, des chamanes, etc., dans les Rebecca Kinn, ce qui m'intéressait de travailler avec les vampires, c'était toute cette évolution qu'il y avait sur, justement, le vampire, depuis, et celui particulièrement qui a été créé par Laurel K. Hamilton dans les années 90, qui était sur ce que j'appelle, moi, la création de l'urban fantasy à ce moment-là. Et je trouvais que évidemment il y a Twilight etc. Bon là c'est un petit peu abusé, c'est vraiment pour les voilà. Moi j'ai voulu garder quand même le vampire qui mourait au soleil, qui pouvait pas se déplacer. Voilà les grands classiques du genre parce que c'est plutôt un hommage. Mais ce vampire il m'a toujours intéressé parce que effectivement c'est un cas d'immortalité et en même temps c'est quelque chose d'extrêmement sexuel parce que quand il perce avec ses dents, ça a souvent été une figure symbolique de la sexualité en elle-même puisqu'on ne pouvait pas en parler. J'ai toujours trouvé ça assez intéressant, cette symbolique. Donc c'est un personnage, un héros qui m'a toujours beaucoup passionné. Le vampire, c'est un mythe qui est assez fascinant, je dois dire.
Alice ?
Je suis d'accord avec toi sur la question de l'hommage, en fait, parce que effectivement, Alors moi, mon héroïne a une méthode très particulière pour tuer les vampires, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir bien à elle qui consiste à pouvoir posséder le corps des gens et pouvoir en faire ce qu'elle veut. Et donc, elle assouvit sa vengeance contre les vampires qui ont massacré sa famille adoptive. Et ce ne sont pas des créatures qu'elle a le pouvoir de combattre si elle n'avait pas cette capacité de possession. Donc en fait, elle a trouvé un moyen assez original de les tuer, c'est-à-dire qu'elle possède leur corps. Et le premier qu'elle tue, en fait, elle dit elle se suicide. Parce que donc elle possède son corps, elle se plante un pieu dans le cœur, et elle se rend compte que c'est pas une bonne méthode pour tuer un vampire, parce que ça lui fait très très mal. Donc après, elle améliore ses méthodes. Mais oui, l'utilisation du vampire chez moi était un hommage à ce mythe avec lequel j'ai grandi toute ma vie. En fait, je ne peux pas me souvenir de quand j'ai découvert la figure du vampire. J'ai l'impression que j'ai toujours su que ça... ne le prenez pas bizarrement, mais j'ai toujours su que ça existait. Pas dans le sens de « je crois qu'il y a des vampires qui se baladent dans la rue », mais j'ai... toujours su que dans la littérature, c'était une créature qui existait. Je ne me rappelle pas du premier livre de vampire que j'ai lu. Mais ensuite, je sais que c'est quelque chose qui m'a façonné en tant que personne et en tant qu'auteur, parce que j'ai lu Anne Rice et j'étais très très jeune, et donc j'ai probablement pas compris la moitié de ce que j'ai lu, mais j'ai lu Anne Rice quand j'avais 10 ans et ça m'a changé mon monde. Et j'ai grandi en regardant Buffy contre les vampires, et ça aussi, ça m'a changé mon monde. Et donc oui, c'est ma micro pierre à l'édifice, c'est mon petit hommage en disant moi aussi j'ai des vampires, et voilà, ils sont les miens sont assez standards. Effectivement, ils peuvent pas sortir à la lumière du jour, un pieu dans le cœur les tue, voilà, c'est
le mythe, quoi.
Le mythe, mais je dirais pas le mythe d'origine, parce que par exemple, c'est très loin du vampire c'est très loin de Dracula, en fait, parce que pour moi il y a une nette cassure en fait au moment où Anne Rice écrit Entretien avec un vampire, parce que c'est la première fois que on prend la peine de prendre l'opinion du suceur de sang. Et qu'on se rend compte que il peut avoir des petites émotions lui aussi, un petit cœur qui bat, et même si c'est un salopard qui va vous bouffer dans une ruelle, il a quand même, il est plus que ce qu'on en voyait dans Dracula.
Kim, comment est-ce que vous expliquez alors que ça ne suit pas les règles habituelles du mythe de Dracula et des suivants? Le succès de ces séries télé que sont Buffy, True Blood et Twilight.
I'm not sure how I explain the success of anything. Obviously, they work for their target audience and have a crossover into a greater audience. I find all those things sort of interesting. Maybe less satisfying to me than, I don't know, the vampire movies and books that I... saw and read when I was a teenager, which were mostly Universal and Hammer films and Victorian literature. But I think, that every generation now incorporates, there's a new version of a vampire for every succession of youth cult.
Personnellement, je ne sais pas si je peux expliquer comment quoi que ce soit peut marcher, mais je pense que en fait, ces films et ces séries atteignent leur public cible et un public élargi aussi. Personnellement, je ne peux pas dire que je trouve ça aussi satisfaisant, bien sûr, que les vieux films en noir et blanc d'époque, des films de Dracula que j'aimais bien quand j'étais adolescent, ou alors la littérature victorienne sur le sujet que j'aimais beaucoup. Mais là, c'est une question de génération. Et je pense que toutes les générations ont une figure du vampire qui leur est propre. Donc pour moi, je pense que cette génération a trouvé ses figures de vampires.
There's I don't know if you've seen it, there's an internet meme going around which tries to suggest that vampire fiction has fallen on hard times by showing you an image of Robert Pattinson in Twilight and an image of Kiefer Sutherland in The Lost Boys, implying that the Keith Sutherland character in The Lost Boys is really tough and badass and scary, and that Edward Cullen is wimpy and weedy and not up to that. But to me, The Lost Boys was a sellout teenage vampire movie in the 1980s. It was the mainstream, ordinary version of Near Dark, which was the real gruesome badass movie that opened on the same day. And so I think we always have this sort of, you know, that feeling everybody has that, you know, pop music today is rubbish, but it was great when I was 18. And I think the same is true because we're talking, one of the things that's on the title of this panel is Vampires d'aujourd'hui, Vampires of Today, you know. And that's an interesting thing. You can be immortal and yet still passing and yet still ephemeral. And I think, yeah, there's something sort of funny about vampire characters who adopt whatever the current youth trend is, in the way that the Twilight vampires are kind of emo vampires, and we've had like heavy metal vampires and sort of grunge vampires, and all the way back to sort of the hippie vampires, who I really like actually from the early 70s movies. I think, yeah, if you live forever, why would you want to dress like a teenager? But
pour ce qui est de la fiction vampire, il y a une sorte de comparaison là, qui circule sur Internet en ce moment entre Robert Pattinson et Kiefer Sutherland, donc Robert Pattinson dans Twilight et Kiefer Sutherland dans Lost Boys. Et donc c'est une comparaison qu'on fait, et comme Kiefer Sutherland était vraiment le méchant garçon et Robert Pattinson, eh bien, c'est le petit jeune homme très gentil. Hein. Et donc c'est la comparaison qu'on fait où on dit que ouais, les vampires ont beaucoup changé et ils sont beaucoup moins méchants aujourd'hui. Mais je pense que toutes les générations ont eu un vampire qui les représentait. Et comme aujourd'hui, je dirais, ah oui, la musique pop, à mon époque, quand j'étais adolescent, c'était trop bien, et aujourd'hui, c'est nul. Donc je pense que tous ont fait un petit peu le même parcours, le même cheminement pour ce qui concerne les vampires. Alors je trouvais que le titre de ce panel est fort intéressant, Vampires d'hier et Vampires d'aujourd'hui, parce qu'on dit des vampires qu'ils sont immortels, mais en fait, ils sont en même temps très éphémères, ils ont un caractère éphémère, puisque les vampires d'hier ne sont pas les mêmes vampires que ceux d'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un aspect générationnel important dans les histoires de vampires.
Justement, Jeanne, est-ce que ces séries, particulièrement Twilight, True Blood, etc., c'est encore de vraies histoires de vampires ?
En fait, moi, je me situe un peu dans un courant différent. Je me réfère plus au mythe classique, donc plutôt un mixte de Dracula et d'Anne Rice. Donc pour moi, ces vampires ne sont plus des vampires. À partir du moment où ils prennent la lumière et où, effectivement, ils brillent au soleil, moi, j'avoue que je ne m'y retrouve pas, en fait. Moi, j'aime bien quand même qu'on se situe dans un monde, non pas manichéen, mais où la part du mal, la part de la perversité, la part du mensonge est forte, où effectivement un héros est un héros extrêmement chargé et où il va vous surprendre à chacun de ses actes, parce que vous pensez qu'il va se comporter de telle manière, mais non, sa perversité, son intelligence, sa capacité à transcender les situations, à transcender les époques, à intégrer toutes les références et toutes les expériences des époques qu'il a traversées le rendent évidemment incroyablement surprenant et magique. Donc à partir du moment où effectivement il est comme ça innocent, moi je m'y perds.
D'ailleurs, effectivement, le vampire qu'on rencontre au début de Rebecca Keane et qui, lui, est au soleil, n'est pas un vampire. Et on le découvrira beaucoup plus tard. Donc, effectivement, les autres vampires sont classiques. Voilà, dans ce qui concerne, voilà, on est à peu près de la même... Je pense qu'on aime la même littérature. La littérature fait évoluer, effectivement, mais elle s'adresse vraiment à une génération précise. Je suis de celle de Jeanne, par exemple. On est vraiment sur les vampires classiques parce que c'est un monstre. Il doit le rester. Si on ressent uniquement l'humanité... chez lui, il perd tout son attrait.
Justement, il y a un mélange des deux, c'est que là, il y a une part d'humanité qui est liée au fait qu'il est solitaire et qu'il y a une certaine souffrance à perdre l'être aimé, ce qu'en par hasard il aime, mais il faut aussi qu'il ait cette part de sauvagerie, de bestialité, de sexualité extrêmement crue qui fait qu'il est fascinant.
Moi, justement, je me suis posé la question de l'évolution, de comment on perd son humanité. comment petit à petit, voilà, comment on découvre qu'on est immortel. Enfin, c'est toute la question où finalement, enfin, moi je me suis penchée un petit peu sur un mythe autour du premier vampire à la fin du néolithique, et donc justement où il n'y aurait pas un mentor qui lui explique les codes, puisque finalement on arrive à une époque où tout le monde connaît les codes du vampire, enfin en tout cas des vampires classiques, voilà, qui ne peut pas sortir au soleil, qui doit être tué avec un pieu dans le cœur, qui doit être nourri de sang, et du coup de me dire, mais finalement quelqu'un qui meurt et qui survit à sa propre mort en revenant différent, comment il découvre qu'il est devenu immortel, comment on gère ça, comment on gère cette évolution psychologique là, comment on découvre qu'il ne faut pas sortir au soleil et finalement que le lecteur lui connaisse les codes que le personnage ne connaît pas encore. Et voilà, ça m'intéressait d'utiliser les codes classiques que finalement on connaît maintenant et d'en amener autre chose.
Justement, Alice, le code classique, sociologiquement, le vampire est un seigneur du 19e, du vieux monde, représentatif d'une aristocratie un peu passée au 19e, et contre lequel les forces du progrès de la science s'acharnent. Est-ce que vos vampires à vous aujourd'hui sont encore des représentants d'une classe sociale lointaine et isolée?
Ça dépend lesquels, en fait. Je m'intéresse, enfin, les vampires qu'on voit dans ma série ne sont pas très nombreux et on ne les voit pas de manière suffisamment prolongée pour savoir exactement qui ils sont et comment ils fonctionnent. Mais l'essentiel du truc tient sur le fait que le vampire principal, celui contre lequel l'héroïne doit se battre parce que c'est lui le responsable du massacre de sa famille, est effectivement un représentant de cette vieille espèce de vampire. Donc c'est un vieil aristocrate qui vient des pays de l'Est, mais qui en même temps... par moment à des petits éclairs de si je vis avec mon époque, d'ailleurs j'ai un iPhone qui m'indique quand est-ce que le soleil se lève pour rentrer chez moi, mais je dors quand même dans un cercueil le reste du temps, donc il a cette dualité parce que il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas aussi évolué avec la technologie, avec notre monde. Et je vais revenir à Anne Rice toutes les 3 minutes, vous m'excuserez, mais c'était effectivement la question que posait Anne Rice, comment ces vampires font pour rester alertes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des explications donc de Armand le vampire qui est à Paris et qui trouve que tous ces vampires sont complètement dégénérés parce qu'en fait ils passent leur temps à être tout le temps entre eux et comme des ils deviennent moins, en fait, au lieu d'être surhumains, ils deviennent moins qu'humains parce qu'ils n'ont vraiment plus rien qui les relie à l'humanité. Et Armand cherche donc un lien avec l'époque, tout comme Lestat a trouvé en Louis un lien avec son époque et quelque chose qu'il faisait. Et je trouve ça très intéressant parce qu'à notre échelle humaine, même si on n'est pas immortel, nous aussi on a besoin d'un lien avec notre époque, parce que à partir du moment où on commence à rester dans les mêmes cercles très fermés, dans les micros aquariums dans lesquels on se force à vivre, au bout d'un moment on ne parle plus que des mêmes sujets et on tourne en rond comme des poissons rouges, et au bout d'un moment on dégénère. Et je trouvais ça, enfin, pour moi le mythe du vampire est intéressant parce que c'est un reflet de ça. Et je ne sais pas du tout si je réponds à la question.
Ce n'est pas grave. Mais justement, Jeanne, est-ce que le vampire n'est pas une image, une icône d'une période passée et qui n'est plus dans son temps ?
Oh que non. Non, parce qu'effectivement, il évolue très vite. Et puis, ce qui est assez fascinant dans ce mythe, c'est qu'il est, comme je le disais, il traverse les époques. Et donc, on peut jouer avec lui, on peut le faire vivre à des époques différentes. On peut avoir des livres qui sont construits comme des flashs avec des époques différentes. Et à chaque fois qu'il traverse une époque, il apprend. Donc les miens, par exemple, il y en a un qui a traversé la Révolution française, qui était un jeune bourgeois, un jeune avocat bordelais, issu du monde du vignoble, qui est élu député à la Convention, qui rêve de faire une grande carrière politique comme Robespierre ou comme Danton, qui est transformé en vampire dans un bordel du Palais Royal, alors qu'il avait vraiment pas du tout envie de ça. Ce qu'il voulait, c'était laisser une trace, effectivement, dans l'histoire, mais par sa carrière politique. Et donc, il est désespéré, mais en fait, il va rebondir. Et aujourd'hui, on le retrouve hacker génial, accumulant des richesses par sa capacité à jouer avec l'informatique, déjouant la brigade criminelle par son... qui cherche un tueur en série un peu particulier qui ne cuit que des spécialistes des maladies sanguines. Il arrive sans arrêt à déjouer leur piège parce qu'il est extrêmement intelligent. Donc il évolue avec son époque, il n'est pas du tout dépassé.
Moi, le mien, donc, on est dans une période beaucoup plus courte. Hein, on est entre la fin du néolithique et un petit peu avant Rome. Donc, on couvre moins, il traverse beaucoup moins d'époques. Mais il a quand même ce
mais
côté...
ça fait quand même quelques fameuses années.
Oui, voilà, ça fait quand même... voilà. Mais disons qu'il a cette tendance à pendant une centaine de 100 ans, à avoir une attitude du genre « c'était mieux avant ». Et puis, au bout de 200 ans, il commence à vouloir s'intéresser aux nouveautés. Mais il voit toujours un petit peu d'un mauvais œil. C'est-à-dire que, enfin, voilà... Même au début de l'Antiquité, il est toujours avec ses peaux de bête et sa hache en pierre et il regarde les gens qui ont des armures et des glaives d'un mauvais œil en disant ça pourrait être sympa, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais garder la culture de mon époque? Est-ce que je la fais perdurer parce que c'est la personne que je suis? Ou est-ce que j'abandonne ça au profit de ce qui se fait maintenant? Est-ce que la modernité, alors la modernité pour lui c'est un glaive, hein, mais voilà, est-ce que la modernité, est-ce que je dois m'adapter à la modernité? Mais il est à la fois fasciné par l'évolution humaine et à la fois assez effrayé parce que il se sent dépassé. Il est immortel, il évolue là-dedans, mais lui, enfin ce personnage-là en particulier, ne veut pas se mêler aux hommes, il ne veut pas évoluer avec eux, donc il reste en retrait et donc il en est très méfiant et en même temps il a envie, quoi. Donc si on lui laissait peut-être plus de temps, on verrait s'il arrivait jusqu'à l'iPhone ou pas.
Chez Kim. Les vampires prennent d'une certaine façon le pouvoir. C'est encore des histoires de vampires alors quand les vampires sont au pouvoir.
When I set out to write the first of these books, there had already been a couple of novels. Brian Stables' The Empire of Fear is one, and Richard Matheson's I Am Legend that posited vampire societies or large-scale coexistence of vampires and human beings. So I already had some precedents, and I decided I didn't quite want to do that. I didn't want to do a vampire aristocracy who own and run everything in everybody else's cattle, because I don't think even the most monolithic tyrannies actually work like that. People aren't particularly efficient. And also that... Oh, let me think. I'm breaking up my paragraph. I do this in my books as well. I write really long things and then have to...
Bon, je m'arrête en milieu de paragraphe, mais je fais la même chose dans mes livres. Je commence à écrire des très longs paragraphes et puis après, je résume un peu. Donc, pour les vampires, au départ, je n'avais pas vraiment eu l'idée d'écrire ce que j'ai fini par écrire. Mon idée était complètement différente. J'ai été très influencée par des auteurs comme Richard Matheson, par exemple, I Am Legend. Alors, je suis désolée, je ne connais pas le titre en français. Je suis une légende. D'accord. Pas trop compliqué. Donc je suis une légende où les vampires et les humains cohabitent très bien et donc c'est très bien décrit dans le livre. Donc ça, pour moi, ça a été une de mes grandes influences. Et après, j'ai réfléchi à des vampires au pouvoir, donc des vampires qui détiennent le pouvoir, un pouvoir total. Et je pense que même dans les dictatures les plus strictes dans le monde, on n'a pas vu des dictatures qui avaient autant de pouvoir que mes vampires dans mon livre.
And I did that thing that I assume everybody here on the panel has done when you decide to write a vampire novel. You look at all the attributes of vampires and decide which ones you're going to use. And you tick off garlic, steaks. I love, there's a recent movie where someone asks a vampire, would a steak through your heart kill you? And they say, well, it would kill pretty much anyone. And then I decided although I was spinning out of Bram Stoker, so I had to take his rules for vampires. And for instance, Dracula can go out in the daytime. It's only since 1922 and Nosferatu that vampires have sort of crumbled to dust at dawn. I decided that I wanted lots of different types of vampires, and I looked around at all the other possibles. I thought, well, it's simple. It's a case where every single previously imaginable type of vampire coexists, and naturally they wouldn't always like each other or get on with each other or have a common interest. And again.
Donc, je pense que peut-être vous avez fait le même cheminement tous, tous les membres de ce panel, c'est-à-dire que quand on a décidé qu'on allait écrire un roman avec des vampires, on s'interroge sur les qualités qu'auront nos vampires et les qualités traditionnelles des vampires. Je pense par exemple au fait, est-ce qu'ils peuvent ou non sortir le jour? Est-ce que l'ail aura un effet de prévention contre les vampires? Voilà. Et est-ce que par exemple le pieu dans le cœur suffira pour tuer un vampire? Mais bien honnêtement, un pieu dans le cœur, comme on l'a déjà dit, comme d'autres que moi l'ont dit, un pieu dans le cœur, ça tuerait n'importe qui, hein. Mais bon, moi, dans mon livre, je me suis beaucoup basée sur le Dracula de Bram Stoker, et donc je me suis beaucoup basée sur ces vampires. Il faut savoir que le vampire qui ne peut pas sortir le jour au risque de se retrouver une petite pile de cendres sur le sol, ça c'est de 1922 avec Nosferatu. Avant Nosferatu, les vampires ils pouvaient sortir le jour. Donc ça c'est quand même assez récent dans l'histoire du vampire. Et donc en me penchant sur, en faisant ma recherche, en me penchant sur tous les types de vampires, j'ai vu qu'il y en avait vraiment énormément de genres de vampires, mais ils ne s'entendent pas nécessairement tous très bien entre eux, et il arrive qu'il y ait des conflits entre les différents types de vampires aussi. Donc il existe tout type de vampires et ils ne s'entendent pas tous nécessairement très bien.
And I decided, since I had a book which had lots of different types of vampire characters, and you look at it, and there are some previously existing literary vampires or traditions of vampires who basically seem to have superpowers, who are really tough and hard to deal with. But there are also characters like Carmilla who seem more or less handicapped and are dangerous, but also horribly dependent and invalids. And I realized that one of the things that I needed to do in this book was actually have some vampires who were still terrifying, who even other vampires would actually find rather hard to be around. And obviously Dracula, being still the famous king of vampires, had to be one of those. And I thought, and there are those Chinese hopping ones from the Far Eastern movies. I thought, that's still pretty far out. Your average Hammer Films cloaked aristocrat would still find it difficult dealing with Jiangxi, hopping vampire. And so I put some of those in. And there are some really disgusting Far Eastern ones. The severed head with the floating innards is one I've not quite used yet because it looks really appalling. But there are some that are so extreme. That are still, and I use that slightly more in the second book, the World War I book, where vampires deviate very much from the human template. So you go from some who are almost normal to some who are impossible to be in a room with without going mad from fear.
Et donc il y a toutes sortes de vampires et on les montre souvent comme des êtres costauds, forts, vraiment dotés de super pouvoirs. Mais il y a aussi des vampires comme Carmilla qui sont handicapés mais quand même très très dangereux. Il y a des vampires qui sont très effrayants, qui font peur à tout le monde, et puis il y a des vampires gentils aussi. Donc il y a vraiment toutes les catégories de vampires. Et moi j'ai voulu montrer des vampires qui faisaient peur à tout le monde, genre Dracula. Donc j'ai pris bien sûr Dracula, mais il y a aussi toutes sortes de vampires asiatiques. Par exemple, il y a des vampires sauteurs chinois qui font peut-être un petit peu moins peur, mais qui sont vraiment très rigolos. Et il y a aussi des vampires très extrêmes. Alors là, vraiment à l'autre extrême complètement. Ou alors, il y a une tête coupée. J'ai pas encore osé le faire c'est l'auteur, hein, il a une tête coupée avec les entrailles derrière, là, et c'est un peu dégueulasse. Et donc, je n'ai pas encore trop osé faire ça, mais dans mon deuxième livre, c'est-à-dire le livre de Dracula pendant la Première Guerre, c'est le deuxième tome, là, on a des vampires qui sont peut-être un petit peu plus effrayants, mais on a quand même toute la gamme des vampires, ceux qui sont très très loin des êtres humains et ceux que l'on distingue peut-être avec difficilement des êtres humains, donc très proches des êtres humains. Donc moi, je voulais couvrir toute la gamme des vampires.
Est-ce que quand vous choisissez pour vos vampires, Jeanne, différents attributs, comme disait Kim, les caractéristiques, est-ce que vous pouvez en éliminer jusqu'à éliminer, par exemple, l'immortalité ?
Alors, jusqu'à éliminer l'immortalité, non. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer des conflits au sein de l'univers vampirique. Par exemple, dans Rouge Flamenco, il y a une guerre autour du sang que j'appelle le rouge, puisque pour les vampires, c'est la matière première, c'est comme le pétrole pour nous, hein. Donc, il y a vraiment une guerre autour de l'appropriation du sang. Donc, il y a les vieux vampires qui pensent qu'ils descendent de Lucifer et qui sont là pour répandre le mal sur Terre. Donc, ils sont emmenés par un personnage qui s'appelle Dragon, bien sûr, en clin d'œil à Dracul et à Dracula. Et puis, il y a les vampires modernes, les vampires high-tech, qui sont emmenés par un personnage qui s'appelle Carmilla, hein, bien sûr, en hommage à la Carmina de Chère Dame Le Fanu, et aussi à Carmen, parce que c'est une danseuse de flamenco, donc ça c'est un clin d'œil à Mérimée, et c'est aussi un clin d'œil à la femme fatale. Hein, voilà. Donc il y a vraiment un conflit au sein du monde vampirique entre les vampires qui sont emmenés par Dragon et les vampires modernes qui prennent des avions, qui à l'époque c'était des fax, on n'avait pas encore Internet, et qui trouvent des solutions pour purifier le sang et pour se nourrir de manière un peu plus moderne que simplement en plantant ses crocs dans la gorge de quelqu'un tous les soirs. Parce que ça, c'est amusant. C'est les bordées qu'on fait le samedi soir. Mais faire ça tous les jours, franchement, c'est assez embêtant.
Le sang. Vous avez parlé aussi, Cassandra, du sexe tout à l'heure. Le sang, le sexe, c'est inhérent à ce mythe du vampire ?
Alors franchement, moi personnellement, je crois que le mythe du vampire est beaucoup né aussi du peuple Scythe où ils buvaient effectivement le sang de leurs ennemis dans des crânes. Donc j'espère que non, mais en l'occurrence, oui. C'est-à-dire que moi, dans ce qu'on appelle, peut-être, je ne parle pas à la limite d'Anne Rice parce que c'est encore autre chose, mais dans tout ce qu'on appelle l'urban fantasy qui a pris naissance en littérature dans les années 90, alors effectivement, oui, le sang et le sexe sont liés. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est assez clair. Mais je pense qu'avant, c'était caché aussi. C'est-à-dire que cette façon de... Voilà, c'est une pénétration du corps par les dents au lieu de le faire autrement. Mais ça a été lié assez tardivement. Au départ, effectivement, le vampire était un être repoussant, un être des ténèbres, un être... On n'avait absolument pas envie de lui ressembler, ni qui rentre dans notre univers. Et ça a complètement évolué, effectivement, avec Anne Rice, alors Bram Stoker, Dracula, c'était quand même assez joli, pour le coup. Mais Anne Rice, effectivement, a changé. Il y a eu un véritable tournant dans la littérature. Mais après, évidemment, ça a été la naissance de l'urban fantasy, il faut être très clair. Et là, pour le coup, effectivement, sexe et sang sont devenus étroitement liés. Dans Alice. La littérature, en tout cas, fantastique.
Je rebondis le temps de 30 secondes. moi, j'ai pris le contre-pied inverse, dans le sens où, pour moi, le sang que le vampire ingère remplace le sien, ce qui fait que par définition, mon vampire à moi est impuissant. Et du coup, il va pas s'en rendre compte tout de suite, et il va pas faire forcément le lien tout de suite, et il va se rendre compte, dans une scène assez forte où il va essayer finalement d'avoir un descendant de façon classique, où ça ne va pas marcher, et en mordant sa victime, tout d'un coup, c'est à ce moment-là que ça va permettre de lui provoquer une érection, et où du coup, voilà, le sang et le sexe vont être liés autrement. Pour moi, j'ai retiré certains classiques comme les crucifix, parce que quand on est 1500 ans avant Jésus-Christ, forcément, il n'y en a pas. Mais ça me paraissait logique, hein, de ne pas garder le lien avec la religion. Mais au niveau de mes codes, parce que je suis super fan de Buffy contre les vampires, donc la plupart des codes ont été pour moi les mêmes. Mais pour tout ce qui est lié au sexe, ça me paraissait intéressant d'arriver justement dans les hommes ont besoin du sang pour pouvoir voilà, accomplir leur acte sexuel. Qu'est-ce qu'ils font s'ils n'ont plus assez de sang ?
Alice ?
Bah oui, d'après moi, le sang et le sexe sont liés au moins depuis Anne Rice. Je vous avais dit que je prononcerais son nom toutes les 3 minutes. C'est un défi personnel. Et à l'époque, donc, comme je vous disais, j'ai lu Anne Rice quand j'avais 10 ans. La moitié du bouquin m'est passée au-dessus. Je pense qu'à 10 ans, la notion de sang, sexe, ça me passait là. Mais il n'empêche que c'est, même si sur le coup je ne l'ai pas compris, en fait, je l'ai toujours intégré d'une certaine manière inconsciemment. Et ce que j'ai apprécié effectivement avec l'arrivée de l'urban fantasy, avec des auteurs comme Laurel K. Hamilton, c'est que il y avait plus, on faisait même plus l'effort de faire des sous-entendus un peu bizarres et des trucs où genre oui la morsure vous comprenez machin, parce que dans Anne Rice, dans Le voleur de corps, les stats volent le corps d'un humain et peut enfin sortir à la lumière du jour, manger de vrais aliments, potentiellement se faire une meuf, ce qui ça date là, ça fait 500 ans, alors vous imaginez, voilà. Et en fait, tout ça est hyper décevant. Et du coup, moi j'étais très triste en fait quand je suis arrivée à ce moment-là, parce que j'étais là genre mais le pauvre Lestat en fait, voilà, ça fait 500 ans qu'il veut ça et en fait ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi je disais ça ? Parce que j'ai apprécié en fait effectivement cette réhumanisation dans l'urban fantasy, de pouvoir leur redonner un aspect ouvertement sexuel et ouvertement plus humain en fait.
Chez Kim, les vampires, ce sont des cadors sexuels.
Vampires are very sexy characters. Comment dire ça en anglais?
Yeah, fair enough.
Are they good fuckers?
Thank you, vampires.
Yeah. Well, my answer to that is so are people, and I think my fundamental approach in this particular run of books was to assume that vampires were just types of people and they had characteristics, and so all the range of personality and moral types are found within vampires. They just have. I did decide they had to drink blood and they had to have. They're not immortal, they are long lived, but actually they're quite fragile. But that's from doing a sociological survey of vampires in literature and finding that you are split between characters like Dracula, who are 500 years old, and characters like Lucy, who don't make it to the end of the week. It seems there are very few middle-aged vampires. Yeah. And the number of ones that don't make it to the end of the week are surprisingly high. So I figured that becoming a vampire made you immortal, but if you're an insurance agent, actually your life expectancy had really gone down, in the way that people who win the lottery, their life expectancy halves, you know, and I think it's like that. Most people can't handle it and burn out and die.
Bon, mais moi, comme j'ai dit, je décris toute la gamme possible des vampires qui existent. Mais ils sont comme les humains, ils sont comme les gens. Donc, il y en a pour qui, oui, c'est, mais d'autres, non. Toute la gamme est présente dans mes livres. Donc, pour ce qui est des caractéristiques des vampires, le sang, bien sûr, est clairement présent dans mes livres. Mais ils ne sont pas tous immortels. Et en fait, ils sont même un peu fragiles. Hein. Parce que moi, j'ai bien étudié toute la littérature vampiresque et j'ai trouvé toute la gamme de vampires dans la littérature vampiresque. Dracula, lui, il a vécu 500 ans, mais Lucie, c'est à peine si elle arrive à la fin de la semaine. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait ce décalage entre vampires. Donc, c'est comme chez les êtres humains. Vous savez, le vendeur d'assurance n'a pas nécessairement une très longue espérance de vie. Et il me semble que pour les gens qui gagnent la loterie, l'espérance de vie est diminuée de moitié. Et donc, moi, je voulais mettre ça dans mon roman aussi pour mes vampires.
Alors, le héros vampirique est-il une métaphore de l'altérité. C'est-à-dire, accepter des vampires, ce serait accepter les autres, la figure de l'étranger. Et accepter d'être mordu, ça devrait être accepter de faire partie de ce monde des vampires. Qu'en pensez-vous, Jeanne ?
C'est vrai que le vampire vit dans les marges, il vit dans les marges urbaines, il vit dans les zones de non-droit. Il est exclu. Et en fait, sa problématique, c'est d'arriver à passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire à toujours entrer dans le monde humain, à se fondre dans l'anonymat et dans la masse, et à se faire accepter. Donc effectivement, c'est une figure de la marginalité. D'abord, il porte en soi la malédiction du sang perdu. Or, on sait bien que le sang, c'est quand même une réflexion et un mythe très important pour les humains depuis toujours. Je veux dire, effectivement, il y a eu des sacrifices sanglants dans de nombreuses religions. Au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, les médecins qui ne savaient pas faire grand-chose, ils saignaient leurs patients. Il faut d'avoir d'autres idées. On se demande d'où leur venait cette idée-là. La religion chrétienne, effectivement, il y a tout le symbole du sang du Christ qui est bu. Enfin, ce mythe du sang, il est vraiment très fort. Et puis, il a pris encore plus d'ampleur avec l'apparition du sida qui a renvoyé pendant longtemps une bonne part de la jeunesse aux marges de l'humanité. Donc, bien sûr que ce vampire, c'est une figure de la marginalité et qu'il essaye de rentrer petit à petit dans le monde humain.
J'en profite. De ce symbole, de cette métaphore de l'altérité que pourrait préfigurer le vampire.
Effectivement, oui, pour moi, le vampire est. Je suis totalement d'accord. C'est un représentant en fait de la marginalité et comme il est détaché en fait. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'ils ont besoin de se lier à l'époque présente, mais il est détaché en fait de la société dans laquelle il vit. C'est un observateur de l'humanité et j'ai oublié la fin de ma phrase. Si vous voulez rebondir.
Oui, non, pour moi, c'est pas forcément le représentant de la différence ou de la marginalité. Au contraire, à mon avis, c'est une part très noire de l'être humain qui est représentée. Donc, c'est pas voilà, l'acceptation de la différence, c'est plus l'acceptation de la noirceur en nous. En tout cas, je le vois plus comme ça.
Oui, Jeanne, c'est plutôt une préfiguration.
L'acceptation ou pas l'acceptation.
De ce qu'on est nous.
Évidemment, de toute façon, le personnage du vampire, pour un auteur, c'est le rêve, parce qu'on peut exprimer tous ses fantasmes en ayant là parfaitement innocent, en disant, oh là là, mais c'est répugnant, c'est ce que fait cet individu, mais ces scènes de sexe en série, ces meurtres, tout ça, c'est, oh, mais quelle horreur, en fait, on est très très content. Donc effectivement, c'est toute la figure de la perversité qu'on n'assume pas et qu'on met dans nos livres, donc bien sûr.
En ce qui concerne les vampires tels que je les ai traités, ils vivent en marge de toute façon de la société. Ils essaient, si c'est possible, de ne pas se faire remarquer surtout, parce que l'humanité est devenue puissante, elle est devenue forte, et qu'aussi puissants que puissent être les vampires et quel que soit leur pouvoir, ils ne pourraient plus échapper aujourd'hui à la majorité, à la masse. Donc évidemment, les vampires ont tout à craindre de l'humanité, donc ils vivent effectivement en marge, mais par la force des choses, pas parce qu'ils sont moins arrogants ou pas parce qu'ils dédaignent complètement l'humanité, quoique l'humanité est une proie, mais parce que justement, les moyens sont tels aujourd'hui, les armes, l'avancée de la technologie est telle aujourd'hui qu'ils ont tout intérêt à raser les murs.
Hier ou avant-hier, les vampires étaient étranges, phénoménaux, dotés d'une force extraordinaire, immortalité, etc. Mais on les combattait. Aujourd'hui, vous voyez Twilight par exemple, ils sont plutôt dans le monde, même s'ils sont un peu marginaux. Et on essaye de faire ami-ami avec eux. Comment est-ce qu'on est passé ainsi du côté sombre au côté lumineux du vampire, Kim?
Not sure. Those are kind of not really my purview, those books. I did struggle through the first one. I saw the movies. And actually, even then, that's a... that slightly misrepresents what that series is doing. Yeah, the main characters are admirable, but there are plenty of really nasty vampires in those books. It's suggested that the kind of sympathetic ones are unusual within their own society. So, and I'm very much of the feeling that vampires are us rather than them. I think they represent our failings rather than an other that we can project onto. And I don't think Twilight even has the most benevolent, lovable depictions of vampires. That would be the Count from Sesame Street. Or Grandpa Munster from The Munsters, who's a figure of literally a toothless vampire, a harmless vampire. So that's been around for a long time. And the idea that vampires are sort of good-looking, well, that's a survival mechanism, isn't it? Cobras are good-looking for a very similar reason.
En fait, c'est pas trop dans ce que j'écris, moi. C'est pas mes vampires à moi. Mais bon, j'ai essayé quand même de regarder un petit peu les débuts de Twilight. Et là, y a des méchants vampires, bien sûr, qui sont pas très sympas non plus dans Twilight. Mais il y a les bons vampires, les gentils. Donc il y a vraiment toute la gamme. Mais il y a aussi des vampires encore plus gentils, comme le comte dans Sesame Street. Ça, c'est un vampire très, très gentil. Et il y a aussi le grand-père dans la série de Monsters, je sais pas si les monstres. Eh bien, c'est une série télévisée des années 70. Non, Jean-Claude.
On a dû voir ça, Jocelyne.
C'est sûr, vous avez vu ça. Le grand-père, c'est un vampire sans dents dans la série. donc c'est un vampire, mais il a pas de dents, et donc c'est un vampire un peu marginal aussi, et qui est quelqu'un de très aimable. Et
on
donc,
doit le nourrir à l'hémoglobine alors.
Was he being fed? Like, how was he the grandpa?
You see him drinking. He has no teeth.
Donc oui, on lui. Il dort la tête en bas dans un placard et on lui donne à boire du sang parce que, bon, comme il n'a plus de dents, il ne peut plus le faire tout seul. Donc, c'est un vampire qui n'est pas trop méchant. Donc, il n'y a rien de nouveau dans Twilight. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien de nouveau dans Twilight. Ça avait déjà été fait.
Alors,
pour moi, à mon avis, il y a aussi le côté du vampire attirant pour faire rêver les filles. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait une espèce de crainte, en même temps de fascination, de voilà, parfois dans Dracula, il y a ce côté qui dégage une aura un petit peu voilà, attirante, qui fait voilà, il y a ce côté attirant mais en même temps effrayant, et je trouve plus on évolue, plus on a ce côté vampire mignon, gentil, qui brille au soleil, et voilà, qui fait rêver, et je pense que ça, on le retrouve aussi dans Buffy, sur le côté le vampire avec une âme ou le vampire sans âme, c'est-à-dire le vampire de base n'a pas d'âme, est un monstre, et on retrouve petit à petit des vampires qui arrivent à chercher la rédemption ou à renoncer à tuer, et qui petit à petit voilà, gagnent une place, qui du coup peuvent être beaucoup plus acceptables comme petits copains, du coup faire rêver beaucoup plus tôt les jeunes filles.
Mais le physique, en fait, avenant tout ce qui est sex appeal, c'est surtout c'est une arme dans son arsenal, hein. Parce que à la base, il est censé séduire ses proies, et justement pour pouvoir les attirer à lui, c'est juste une arme parmi d'autres, comme sa vitesse, sa force surhumaine. Ou c'est, je pense que c'était surtout ça à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, ça devient un objet de fantasme sexuel. Là, j'avoue que c'est parti un peu en vrille. avec
mais ça marche donc.
Mais ça marche très bien. Je veux dire, auprès des jeunes filles, c'est parfait. Le vampire est devenu un objet de fantasme absolu.
Anne Rice. Non mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai grandi avec Lestat, je suis désolée, mais moi j'étais amoureuse de Lestat, donc du coup forcément le vampire comme fantasme sexuel, enfin je veux dire ce n'était pas possible autrement. On ne peut pas grandir avec Lestat et se dire oui alors les vampires moi je m'en fous.
Eh bien, puisqu'on arrive bientôt au bout de ce débat, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de Alice jusqu'à Kim. La littérature de vampires existe depuis très, très longtemps, fixée depuis le milieu du 19e. Est-ce qu'elle va encore se poursuivre longtemps, croyez-vous? Il y a encore des tas de choses à inventer dans la littérature de vampires, Alice.
Ouh là là. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. J'espère que oui, parce que moi, j'aime toujours lire des histoires de vampires. J'aime toujours regarder des séries avec des vampires. Je ne m'en suis pas lassée. Donc, j'espère que... Même si, parce qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue systématiquement quand on revient sur un mythe qui est aussi vieux et aussi exploité. Il n'y a pas besoin de trouver des trucs exceptionnels, mais juste si c'est bien fait, si ça peut continuer longtemps, moi je serais contente.
Moi, je pense qu'il y a un effet de mode et que la mode est un éternel recommencement. Dans ce que je parle dans les lecteurs, en littérature, de toute façon, je pense que ça ne s'arrêtera pas forcément. Mais que c'est vrai qu'il y avait une certaine lassitude quand il y a eu je ne sais combien d'œuvres inspirées, justement, en urban fantasy ces derniers temps et née aussi de la mode de Twilight, qui est un énorme succès, etc. Je pense qu'effectivement, il restera toujours les livres de fond sur les vampires, mais que c'est un phénomène de mode, ça a été un phénomène de mode à un moment donné, que ça passera, puis que ça reviendra dans 20 ans. Ça s'arrêtera jamais parce que c'est un personnage fascinant. Donc, je vois mal les auteurs se passer du vampire à l'avenir, entièrement du moins.
Alors, deux choses. D'une part, il y a un phénomène générationnel. Donc, effectivement, c'est un mythe qui revient tous les 20 ans, tous les 25 ans. Il est accroché par une génération avec certaines caractéristiques. La mode tombe et puis ça revient une vingtaine d'années après avec d'autres caractéristiques. Moi, après, en tant qu'auteur, j'ai un rapport de fascination-répulsion avec ce mythe. Je plonge dedans et je passe 4 ou 5 ans avec. Et puis, à un moment, j'en ai vraiment ras-le-bol de la morsure fatale, du regard langoureux du vampire. L'ai-je bien mordu? L'ai-je mal mordu? Enfin, il y a un moment où vraiment, je suis saoulée, quoi. Donc, alors, je passe à autre chose. Je reviens à la littérature noire ou à la littérature jeunesse. Et puis, en fait, ça m'enrichit. Donc, après, je reviens au vampire, mais en mixant des codes, c'est-à-dire... en mettant du polar, en mettant des choses plus enfantines, voilà. Et donc, en flirtant avec le mythe, et puis après en allant draguer d'autres prairies et manger d'autres herbages, j'arrive à y revenir. C'est comme ça, en fait, que je fonctionne. C'est pas du tout dans la continuité.
Moi, comme je disais un peu au début, pour moi, le vampire est né du fait qu'il y ait des pervers narcissiques qui existent dans le monde et qu'on rencontre au quotidien. Donc, je pense que tant qu'il y aura des pervers narcissiques, il y aura des bouquins de vampires. Donc, il devrait y en avoir pendant un petit moment. Et je pense qu'effectivement, l'effet de mode qu'il y a eu actuellement sur ce côté beau gosse du vampire peut faire perdurer ça longtemps ou que ça revienne de la même façon fascinante, en tout cas. Okay. Cette ambivalence, danger et attirance, donc je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt.
It used to be said that every generation had its own Hamlet, that the character would be reinvented every 10-15 years, so you'd get John Barrymore and then John Gielgud and then Laurence Olivier, David Warner, Derek Jacobi, whatever. And I think now we have a situation where every generation has its own Dracula. It strikes me that the vampire subgenre is now a permanent part of popular culture, yeah, even high culture, fantasy literature, whatever. So it's going to go on. In the way that most of the big monster-type themes, the werewolf, Frankenstein, every 10 years somebody does a new version, and that triggers off lots of thoughts, and you get a lot of new... And then there's a decline and fall as repetition sets in, but then somebody comes along and enlivens it again. The fact that this is how vampires, in theory, live themselves adds just an extra complication to the system. But I don't think they're going away anytime soon.
Je pense que tout comme chaque génération a son Hamlet, moi je pense à par exemple John Barrymore, John Gielgud ou Laurence Olivier, en fait chaque génération a connu son Hamlet. Je pense que la même chose vaut pour les vampires. On a eu Dracula, puis aujourd'hui on a Twilight, et je pense que les vampires en fait sont là pour rester, ils sont vraiment complètement intégrés à la culture populaire, et je pense que la même chose vaut pour les autres monstres. On a des loups-garous, des phénomènes de loups-garous ou de Frankenstein, et puis dit, ça va et ça vient sur des périodes qui peuvent s'étaler sur 10 ans, ça gagne en popularité, ça repart en popularité, il y a des cycles, effectivement. Et je pense que la même chose, tout à fait, vous, pour les vampires, ça va continuer en cycle, mais ils sont tellement intégrés à la culture aujourd'hui que je les vois mal disparaissant complètement.
Eh bien, donc, l'année prochaine, on pourra faire un débat vampire d'aujourd'hui, vampire de demain. Et je remercie ces excellents débatteurs, Alice, Cassandra, Jeanne, Nadia et Kim Dracula Newman. Merci à vous aussi pour votre attention et à bientôt.